Dans les films, elle se fait souvent toute petite, mais parfois, elle prend carrément toute la place. Jouant un rôle aussi, sinon plus important que les comédiens, la musique de film est un art en soi. D'abord, il faut la composer, bien évidemment, mais pour qu'elle prenne réellement forme, il faut l'enregistrer et la mixer. C'est là qu'entre en jeu l'ami Sylvain Lefebvre, président et mixeur du studio La Majeure. Bonne écoute!
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Très bien, très bien, très bien.
Fait que vraiment, l'intention, c'est plus conversationnel qu'une enquête de fond. De toute façon, pas mal tout le monde dans l'industrie sait c'est qui La Majeure. Ça fait longtemps que t'as parti ça, hein?
La Majeure, ça fait 33 ans.
Tabarouette! Y en a-tu d'autres qui sont aussi vieux que ça?
En publicité, je penserais pas. C'était le studio Marco avant.
Ouais, c'est ça.
C'est disparu, puis non, on est les plus vieux. J'étais fondateur en 84.
Les plus vieux, mais ouais. Vous restez jeunes de cœur.
On essaye.
Histoire de se réchauffer, tu veux-tu me parler un peu de toi, ton cheminement? En fait, je pense que tu as été juste chez La Majeure. Mais...
J'ai été juste chez La Majeure, mais moi, j'étais aux études de musique trompettiste à l'Université Concordia.
Ah ouais, trompette.
Ouais, quand j'ai rencontré Yann Comartin, John Kennedy, qui était un tromboniste. Je sais pas si tu connais les producteurs chez Jay Walter pendant des années. Il était avec nous autres au studio au tout début. C'est lui qui m'a introduit à mon premier partner que j'ai eu pendant que j'étais à l'université. Alors, en terminant l'université, ben en fait, j'ai même pas terminé mon université à cause de ça. J'étais dans la dernière année. On est parti au studio de La Majeure en 84.
Qu'est-ce qui a fait que tu avais le goût de partir ça plutôt que de faire une carrière de trompettiste à travers le monde?
Ah, c'est parce que, écoute, c'est pas facile d'être musicien, hein?
Non.
Puis moi, pendant que j'étais en musique, je faisais le son aussi en même temps de toutes les shows que je faisais.
OK.
Déjà, j'étais dans le son. Pour ça, pour m'approcher, j'avais déjà un gros système de pied quand on faisait des spectacles avec les dames. Pour ça que mon ami John m'a approché pour partir sur un enregistrement. Puis, regarde, j'avais 22 ans.
Incroyable, hein?
Tu y penses beaucoup, mais tu fais comme, ben, regarde, let's go, c'est le temps parfait pour essayer.
C'est ça, hein? Tu pouvais pas manquer cette chance-là.
Ça a bien décollé dès le début, on a été chanceux. Écoute, le premier film qu'on a fait, c'était Le Matou.
Ah ouais.
On a commencé avec ça, puis on a fait beaucoup, beaucoup de films les premières années. Écoute, je pense qu'on faisait 5-6 films par année, puis après ça, on est rentré à faire des albums. Puis c'est comme ça que ça a commencé. C'était pas de la pub au début, c'était vraiment musique, 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 musique.
Puis qu'est-ce qui a fait que la pub est arrivée dans le décor?
Enfin, ouais, ben la pub est inévitablement arrivée dans le décor parce qu'on est centre-ville, on est bien situé. On a commencé à faire de la pub, mais c'est pour ça qu'il y a toujours eu un héritage de musique au studio avant. On est un des seuls, je pense, au centre-ville qui a une room où on peut prendre à peu près 35 musiciens dans notre room.
Oui, oui, je me rappelle de cette salle-là.
Oui.
On avait fait un petit truc une fois, là, vous nous aviez aidé à faire une carte de Noël, puis on avait fait venir une chorale amateur, puis on avait tout rentré.
Oui, oui. Ça, je m'en rappelle, oui.
Hein, c'était le fun, avec Corriveau qui a fait un
Oui, Michel Corriveau, oui.
Fait que le film, ça a-tu toujours continué en the side, puis les albums aussi, pendant que vous commenciez à faire...
Non, les albums, ça s'est terminé, j'ai pas les dates exactes, là, mais...
Tu fais plus ça.
Dans 1990, les technologies ont changé, les compagnies de disques ont changé aussi, là. C'était tout la même business, là. On le fait tous, là. Les ventes d'albums ont chuté, donc les budgets d'albums ont chuté, donc plus capable de se payer un mois de studio... Dans un beau grand studio. Alors, ça a fait un gros changement, donc ça a laissé de la place pour la pub.
Faites-vous encore des bombes?
Mais quoi?
Des bombes, tu sais, vos fameux cafés, là.
Oh, oui, on en fait. On en fait. On a une très bonne machine à café. C'est important, le café.
Hey, je comprends, surtout dans cette industrie-là.
Oui.
Ça tient son monde réveillé, parce que quand t'es dans la pinette galerie en arrière, puis toi, t'es concentré pour faire tes mix, ça peut être long.
Ben, c'est clair.
Ça t'énerve-tu, tout le monde en arrière?
Qu'est-ce que tu faisais, le monde en arrière?
Ben, tu sais, quand tu mixes, là, derrière toi, il y avait comme une espèce de table client où on était
J'entends rien, moi.
Non? T'es concentré dans tes affaires, puis tu fais un filtre?
Non, ben, tu t'habitues, là. Tu t'habitues, puis je vais te dire, même quand les gens parlent, ça me donne exactement l'image de comment ça va sonner si je m'en vais chez un grand magasin ou une épicerie, puis tu sais que ça joue dans les haut-parleurs de plafond, là.
Ah, OK, je comprends. Fait que t'as déjà ton...
Ça donne exactement la perception de ce qui reste avec du bruit autour.
Fait que le client lui-même fait partie du shootbox?
Genre.
regardais sur ton site, vous faites des jeux maintenant? C'est de la sono de jeux?
Oui, on fait toutes sortes de choses. On a fait de la sono pour des jeux. C'est plutôt rare. Okay. On fait juste de la sono pour les jeux quand les grands studios comme Ubisoft n'ont plus de temps dans leur studio à l'interne. Okay. Alors là, on est demandé à venir compenser dans les moments de rush. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est pendant 2 ans de suite, j'ai fait le jeu For Honor, qui est le nouveau jeu d'Ubisoft. Mm-hmm. Et j'ai fait le mix de la présentation 5.1 qui se faisait à Los Angeles à chaque année. Okay. Ça, c'était intéressant. Ça, c'était un beau gros projet. Là, on parle de 300-400 pistes d'éléments de son, de musique, puis de sono, puis de tout.
Wow.
Parce que c'est un X 5.1 qui est présenté au E3 à Los Angeles. La grosse présentation mondiale du jeu.
Du jeu en question.
Parce que c'est important, les gens qui travaillent juste sur cette barre annonce-là, ce trailer-là, là, c'est des gens qui travaillent un an, juste. Okay. Les autres ne travaillaient pas sur le jeu, ils travaillaient juste sur la barre d'annonce.
Okay.
Une équipe de 3 personnes chez Ubisoft qui faisaient juste ça à temps plein.
Fait que là, ce que tu me dis, toi, c'est que tu sais, ces compagnies de jeux-là qui s'installent à Montréal puis tout ça, il y aurait tous leurs studios à l'interne?
Ah oui, oui. Ubisoft, ils ont un studio de mix à l'interne, ils ont plusieurs rooms de sound design où ils font leur sound design à l'interne.
OK.
La raison est très simple aussi, c'est qu'ils font l'intégration dans le jeu eux-mêmes. Là, on rentre dans du technique, là, mais t'as ce qu'on appelle des audio engines. Ça manage ton son dans un jeu vidéo parce que tu veux sauver le plus d'espace possible sur ton disque dur.
Okay,
alors, le bruit de porte, quand tu es proche, c'est pas le même bruit de porte que quand tu es loin, n'est-ce pas? Puis le bruit de porte, quand tu es à gauche, ben, la porte est à droite, etc. Mais c'est toujours le même bruit de porte. C'est juste un filtre qui est appliqué sur le son.
Okay.
Pour minimiser le batteur, pour qu'il y ait le moins de son possible. Mm-hmm. Ça, c'est l'audio engine qui fait ça. Le jeu est capable de détecter qu'on est proche de la porte, donc on va te mettre le son plus fort et plus proche. Si tu es loin de la porte, on le met moins fort avec un petit reverb dessus. Tu comprends?
Oui.
Alors, les autres, ils font tout ça à l'interne parce que si nous autres, il fallait fabriquer les sons, leur envoyer les sons, bien, elles autres, désintégrer dans le système, c'est aussi long que de faire le son. Alors, voilà.
Tu disais tantôt que faire une pub, c'est vraiment pas la même chose. En quoi c'est différent?
À bien des niveaux. Premièrement, en termes de rapidité de travail, il faut que tu travailles rapidement. Prise de son de voix, puis direction de voix, puis savoir comment aller rapidement sur un Pro Tool. Les gars qui font du sound design, qui font du jeu vidéo, je ne suis pas sûr qu'il y aurait la rapidité qu'il faut pour faire de la pub. Bien sûr. Toute l'infrastructure que ça te prend pour service client, ces gens-là, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils aient du bon café, il faut que tu sois bien situé, il faut qu'il y ait du stationnement, il y a tous ces aspects-là. Puis, après ça, toute la distribution puis les formats. Tu sais, nous autres, on fait des années qu'on fait ça, c'est sûr que les formats, on les connaît bien, on connaît exactement le niveau que ça prend pour faire de la radio, le niveau que ça prend pour faire du web, le niveau que tu as besoin pour faire un bon spot TV. C'est toute une connaissance. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'être efficace. T'sais. Il y a 20 ans, on partait de zéro pour faire du sound design. On fabriquait les sons pratiquement un par un parce qu'il n'y avait pas grand-chose, mais aujourd'hui, tu as des bandes de sons incroyables. Le système de recherche sonore est intégré au Pro Tools, donc on va dans notre banque, on trouve les sons qu'on veut, OK, transfère tout dans ton Pro Tools, puis tu commences à monter.
Versus dans le temps, je me rappelle, vous aviez un gars qui allait en arrière et qui cherchait...
Ouais. Absolument. Soit ça, où on cherchait carrément sur des CD, là, il y avait des banques sur des CD.
Ah ouais. Fait que pub, film, vous en faites encore?
Ben moi, je fais de la musique de film. Je mixe et j'enregistre musique de film, oui. Ça fait plus que 20 ans que je travaille avec Michel Corriveau. J'ai une couple de compositeurs à Los Angeles ici. Puis, oui, ça, c'est j'en fais. Ça dépend des années. Il y a des années des meilleures que d'autres. Mais en général, je fais 5-6 films par année.
OK. Mais juste la musique, tu ne mixes pas le film au complet.
Non, je ne mixe pas le film au complet. Ça, c'était un autre business.
OK.
Complètement différent.
OK. Fait que le matou, c'était juste la musique, c'était pas tout le film.
C'était juste la musique.
C'est OK. Ça. Ouais.
En fait, j'ai mixé un film au complet dans ma vie. Je me rappelle même plus du film, ça va bien. C'était un film d'Éric Canuel, puis j'ai été en nomination pour meilleur son. Alors, ça devait être popé.
Fait que Michel est encore là, Corriveau?
Michel, travaille encore avec lui. En ce moment, on a fait la série Les Pays d'en haut.
OK.
Je viens de finir des épisodes pour la Finlande. On vient de faire 6 épisodes d'une télésérie. Il y a des projets de films qui s'en viennent. Non, Michel, t'arrêtes pas. Belle collaboration, ça fait longtemps.
Ben oui.
J'ai été chanceux, j'ai eu la chance d'aller à Los Angeles une couple de fois. Je suis allé y enregistrer chez Warner Brothers. Je suis allé chez Abbey Road.
Ah ouais.
J'ai mixé à Paramount à Los Angeles aussi. Je me suis promené un peu, je suis allé à Prague, faire un enregistrement orchestral aussi pour un film. Très intéressant de voir cet autre business-là dans le monde. Puis tous ces projets-là, je les ai mixés à la majeure, à Montréal.
Cool.
Parce que j'ai une très bonne salle. Mon studio A, il est super.
Puis j'imagine que ton setup te convient, alors que si tu vas dans d'autres studios, j'imagine chacun a ses petites affaires, ou tout le monde a la même machine?
En général, il y a beaucoup de studios qui ont les mêmes haut-parleurs qu'on a, nous autres, là, qui sont les BW. Là.
Mm-hmm.
Chez Abbey Road, c'est tout ça qu'ils ont. On a exactement ce kit-là. Mais c'est sûr que les acoustiques sont différentes. Mais si tu me donnes le même genre de parleur que j'ai ici, je me reconnais. Je suis capable de mixer là-bas.
C'est
le problème, c'est pas ça. C'est que quand tu arrives à Los Angeles, les studios sont pas mal bookés là-bas. C'est bien, bien rare qu'un horaire de film est exactement l'horaire qui était prévu.
Ah oui, hein?
C'est tout le temps en changement, c'est tout le temps en mouvement. Alors moi, je reviens à Montréal, puis je mixe avec mon temps à Montréal.
Mm-hmm.
Et je mixe les week-ends s'il faut. Puis c'est bien plus flexible de cette façon-là. C'est presque impossible. À Los Angeles, tu veux booker un studio pendant une semaine pour faire un mix de musique, là, 5.1 et tout ça.
Mm-hmm.
Puis ta semaine se déplace, mais c'est pas mal sûr qu'il n'y aura plus de place pour toi. Tu vas être obligé de trouver un autre studio,
oh,
tu vas être obligé de payer des frais, parce que quand c'est des studios à Los Angeles, alors c'est pas évident.
T'es-tu souvent sur la route comme ça?
Pas souvent, mais tu vois, l'année passée, j'ai fait Londres, Los Angeles, puis Prague.
Ah ben, moi je pensais que tu n'avais pas le droit de sortir de ton studio.
Non, j'ai le droit pas mal.
Ben, c'est bon.
Je me suis toujours donné cette liberté-là. C'est bon parce que ça développe une expertise aussi
ben oui.
À travers le monde. Je suis même allé enregistrer à Seattle, qui est le deuxième Los Angeles, là, parce que c'est juste en dessous de Los Angeles.
Mm-hmm.
Puis ils ont développé tout un créneau, eux autres, parce qu'ils sont pas membres de l'Union des musiciens, donc les musiciens travaillent à cachet négocié. Il n'y a pas de. Droit de suite, il n'y a rien. Là. C'est des buyouts, ce qu'on appelle. Là.
Ça, comment ça fonctionne? C'est des gens qui t'engagent ou.
Je me prends pas ça parce que le compositeur, entre autres, à Los Angeles, c'est lui avec lui, j'ai voyagé beaucoup. Lui, il voulait faire un projet chez Abbey Road, on est allé.
Okay.
Alors, c'est lui qui m'a emmené là-bas. Puis c'est chez Warner Brothers, c'est avec lui aussi, c'est un des compositeurs de Los Angeles qui m'a emmené là-bas.
OK. Fait que c'est surtout dû au compositeur.
Oui, tout à fait.
Puis ça, c'est-tu tu travailles-tu toujours avec les mêmes compositeurs ou de plus en plus, il y en a d'autres qui arrivent qui disent « Hey, ça... »
Ben, il y en a d'autres. Il y en a d'autres parce que là, c'est sûr, les gens se parlent. Puis, mais j'en ai 2-3 à Los Angeles, mais mon principal, c'est Laurent Kemp. C'est un compositeur qui est monté en ce moment. Là, que ça va très bien.
Ben ouais.
Mais c'est pas une business facile, hein, le business d'être compositeur pour une musique de film à Los Angeles, là.
Ça doit prendre quelqu'un de très calme ou que les pelules sont bonnes pour pas capoter. Là.
Ben, très calme, très. Tu tombes sur le bon réalisateur, puis sur le bon projet qui fit avec toi. Puis c'est ça qui est difficile à trouver pour les compositeurs, c'est de trouver le film qui va faire que tout va marcher. Que le musicien va être capable de s'exprimer, de faire vraiment une belle musique comme il a le goût de faire, puis que le film soit bon.
Il y a une mode aussi. Les films, présentement, ils ont tendance souvent à utiliser des tunes existantes.
Ouais.
Alors qu'avant, c'était composé. Là, on se rappelle tous des tunes d'Ennio Morricone, hein, puis de John Williams, ouais. Jazz, c'était quasiment plus fort que le film.
Oui, tout à fait. En tout cas, Star Wars, c'est encore l'exemple. Ça marche.
Ben
Star
ouais.
Trek, ça marche. C'est encore des thèmes. C'est tous des films qui utilisent encore les orchestres conventionnels et tout ça. Puis c'est une formule qui fonctionne super bien encore. Tu vas toujours avoir ce qu'on appelle le scoring, qui est la musique de fond pour rajouter de l'émotion à l'image.
Mm-hmm.
Il va toujours en avoir. Même quand la musique achetée, tu as quand même du scoring à faire. Souvent, même les bons scoring, c'est pas nécessairement bien mélodique, puis c'est pas des choses que tu vas te rappeler, mais ça fait marcher le film.
Oui, oui.
Ça qui est important.
Non, on écouterait le film sans cette musique-là, puis ça ne serait pas la même chose.
C'est clair. Mm. Non, non, c'est clair. La musique, c'est une voix hein, dans le film. C'est, ça dicte l'émotion.
C'est même un comédien, ça va, je dirais.
Ça va t'amener vers où tu veux t'amener. Puis le jeu d'un compositeur, c'est d'arriver à être juste entre le jeu des comédiens. Si le jeu est juste, puis il est bon, ben t'as pas besoin d'en mettre autant. Puis,
ouais.
Puis au contraire, même si t'en mets trop, puis le jeu est pas bon, ben là, ça la quitte.
Mm.
C'est tout ça. C'est tout de doser. C'est là que c'est important d'avoir un bon réalisateur qui a du bon jugement, puis un bon musicien qui est capable aussi de prendre des directions, puis de même arriver avec des idées pour le réalisateur de choses qui fonctionnent.
Ça, j'imagine, ça dépend des réalisateurs. Il y en a qui doivent penser qu'ils savent tout, puis il y en a qui doivent aller chercher le maximum de leurs collaborateurs, dont les musiciens.
Oui, oui, ben c'est très dur. C'est un marché très, très difficile parce que le réalisateur, lui, il est trop proche de son film souvent.
Ah oui.
Émotionnellement,
il
est complètement impliqué dans son film, puis il n'est pas capable d'en sortir. Et il a entendu depuis un an, parce qu'ils font le montage, puis le pré-montage, puis le offline,
mm-hmm.
il met ce qu'il appelle un temp track, une track temporaire.
Mm-hmm.
Il est allé piger de d'autres musiques de film, puis ça fait 6 mois qu'il entend ça sur sa musique, sur son film.
Ah, ouais, je comprends.
Là, le compositeur arrive avec quelque chose de complètement différent. Mais là, c'est sûr qu'au début, il fait comme « wow ». Puis je vais te dire, c'est très difficile de leur faire lâcher l'émotion à laquelle ils ont été habitués.
Mm.
Ben, c'est la même chose que si je prenais un de tes films préférés à toi, là, que tu as vu 20 fois, puis je change la musique sur le film. Là,
ah ouais.
Qu'elle soit aussi bonne, mais je la change partout. Tu fais comme « wow ». Une minute, là, c'est quoi ça, là? On le voit en pub aussi, là. On regarde en pub... Ils vont mettre une tonne connue sur le montage.
Mm.
Là, on est fait, le compositeur est fait. Puis les compositeurs n'arrêtent pas de arrêter de mettre des temp tracks. Parce que les clients s'habituent à ça. Puis s'habituent à une tonne chantée qui est le fun, qui est super applaudie, mais qui n'ont pas les moyens d'acheter. Ça ne marche pas, là. Et c'est pour ça qu'en plus, tu vois souvent, il y a des copies.
Okay.
Des copies de chansons connues.
Ouais, ouais. Tu repognes la même tune, tu inverses les notes, puis le client est content.
Oh, c'est gênant un peu des fois. Là,
ah, ouais.
Comme, oh boy.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant PizzaForAll. Pour écouter d'autres PizzCasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das Pizzcast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!